voudrais d'abord vous dire la joie que j'ai à vous retrouver. Et je voudrais définir très brièvement ce qui sera l'objet de nos études pendant la semaine. L'idée de ce séminaire, consacré au problème des rapports entre Israël et les nations, plus exactement dans la catégorie de ce qui nous était apparu comme étant une sorte de contestation généralisée des nations contre Israël, l'idée de ce séminaire, elle nous est apparue dans nos études pendant l'été avec le groupe du QH qui était à Jérusalem. Nous nous sommes aperçus que, au-delà même de cette catégorie classique dans le langage de la tradition juive, Israël et les nations, et donc l'idée de la mise à part d'Israël par rapport aux nations, nous nous sommes aperçus de l'envergure de la contestation des nations contre Israël, non seulement dans le temps contemporain, mais à travers les siècles, depuis toujours. Il y a là un principe qui nous est apparu important à étudier, et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette catégorie, Israël et les nations, sur un certain nombre de points précis qui sont étudiés pendant la semaine. Lorsque j'emploie ce terme Israël, bien entendu, on ne peut pas décrocher de l'impact de signification contemporaine qu'il implique. Le mot Israël, comme vous le savez, désigne un État et tous les problèmes contemporains qui se développent autour de l'histoire de cet État. Mais Israël, ce sera essentiellement dans le vocabulaire que nous avons employé, l'identité d'Israël comme peuple. C'est-à-dire, à travers l'humanité, au sein même de l'humanité, il y a, comme je dis souvent, une manière d'être homme bien particulière qui se nomme Israël, c'est une identité humaine qui, en fin de compte, s'incarne et se réalise dans l'État d'Israël contemporain, lequel État d'Israël contemporain récapitule l'ensemble du peuple juif de retour sur sa terre, et on ne peut pas ne pas ignorer qu'à l'échelle individuelle, bien entendu, il peut y avoir contestation, si j'ose dire, sur les définitions que j'emploie. À l'échelle individuelle, le juif comme individu ne coïncide pas forcément avec cette identité Israël dont je vous parle et que je vais essayer de décrire. Donc nous prendrons comme postulat, comme hypothèse de travail, l'existence d'une entité humaine Israël, comme on parle de la Bible, comme on parle des prophètes de la Bible, et identité qui s'est perpétuée. Qui s'est perpétué dans sa propre fidélité à travers le millénaire, mais nous en parlerons à l'échelle collective. Et encore une fois, tout en réservant l'équation individuelle de chacun par rapport à ce problème. Eh bien, nous serons occupés à réfléchir sur les causes profondes de cet aspect hypertrophié, exorbitant de l'hostilité de l'humanité tout entière à travers les grandes idéologies, mais à travers les événements et jusqu'à aujourd'hui, contre cette manière d'être homme qui se nomme Israël. Mais je voudrais ce soir, pour commencer, prendre le problème par le nom inverse et essayer, à l'intérieur même de cette catégorie Israël et nations, nous aurons d'ailleurs réfléchi pour la clarifier, de parler d'un point de contestation inverse, c'est-à-dire la contestation d'Israël contre les nations. Nous apercevrons non seulement qu'il existe, ce que j'ai déjà décrit tout à l'heure, une attitude d'hostilité pratiquement systématique, probablement jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la réussite ultime, contre l'entité Israël, quelles que soient les formes qu'elle prend dans l'histoire, mais inversement, dans la prise de conscience même de son originalité, Israël s'est fondé comme manière spécifique de la conscience humaine dans une contestation contre ce que la Bible nomme les nations. Je pense avoir été suffisamment clair. C'est-à-dire que ce soir, nous commençons par réfléchir sur cet aspect complémentaire de la question. Il y a une distance entre la manière dont Israël comprend et considère le sens de la destinée humaine et une distance par rapport à l'humanité tout entière. Je veux dire qu'il nous sommes invités par tout le langage biblique et traditionnel juif à prendre au sérieux cette catégorie, l'ensemble de l'humanité d'un côté et Israël en son sein, si j'ose dire, de l'autre côté. Cette catégorie Israël des nations, qui fait partie du vocabulaire des prophètes, est devenue presque une banalité dans le vocabulaire de la tradition juive, mais nous devons d'abord y réfléchir. Et nous trouvons qu'un des points de cette contestation de la conscience d'Israël contre pratiquement les positions de toutes les philosophies et de l'humanité tout entière concerne la considération du problème moral. Plus particulièrement, c'est le sujet de notre analyse de ce soir, la manière dont les hommes considèrent la relation entre la notion de moralité et la notion de légalité.
Je crois que nous trouvons là un des points fondamentaux de la contestation judiciaire d'Israël face aux nations. Partout ailleurs, en dehors d'Israël, on distingue moralité et légalité dans le sens fondamental du concept, alors que l'identité hébraïque se fonde dans une option radicalement différente selon laquelle c'est la moralité elle-même qui doit être la légalité. Il y a, je crois, une coupure entre la manière d'être homme que la Bible nomme Israël et la manière dont les autres doctrines, les doctrines des nations, ont pensé ce problème. Bien, je crois que nous pouvons utiliser l'occurrence de la fête de Hanouka pour essayer de trouver ce problème dans sa racine historique même. Comme vous le savez, Hanouka commémore la victoire des Maccabées contre les Grecs, plus exactement contre l'occupation syro-grecque au temps du deuxième temps, et au-delà des péripéties proprement militaires ou politiques qui ont fait que pendant le temps des Maccabées, et grâce à eux, grâce à leur initiative, Israël a retrouvé son indépendance par rapport à l'occupation grecque, mais au-delà donc du niveau proprement politique, il y a eu un conflit de doctrine extrêmement important. Et ce conflit de doctrine a une place particulière dans notre histoire. Ce n'était pas la seule fois, et ce ne sera pas la seule fois, qu'Israël pourra subir une occupation étrangère et aura amené une guerre de libération pour retrouver son indépendance nationale, comme on dit dans le vocabulaire contemporain. Et pourtant, la tradition juive a assigné à la fête de Hanouka, dans sa commémoration même, une importance considérable, qui peut-être dépasse l'envergure des événements à proprement parler. C'est donc que l'on a ressenti qu'il s'était passé un événement d'une grande importance dans ce conflit entre la culture grecque et la culture judéenne, héritière de la culture hébraïque, et que ce qui était l'enjeu de ce conflit dépassait considérablement le fait pur et simple de l'indépendance politique ou nationale. On a considéré que l'identité hébraïque, dans ce cas-là de spécifique, risquait de disparaître. Et c'est pourquoi les commentateurs traditionnels ont réfléchi intensément à ce fait. Que s'est-il passé dans le conflit entre l'idéologie judéenne juive et l'idéologie grecque au temps des Maccabées, de telle sorte que nous puissions comprendre pourquoi la tradition a donné une telle importance à la commémoration de Hanouka. Et bien c'est précisément là les deux conceptions de la destinée humaine dont je vous parlais tout à l'heure qui se sont rencontrées et heurtées. Il peut paraître paradoxal de mettre l'idéologie grecque à l'indice de l'humanité tout entière. Mais je crois que ce n'est pas du tout par hasard que ce soit précisément au sein de la société grecque que la conception que l'humanité se fait du problème moral à l'échelle universelle s'est trouvée formulée à l'intérieur d'une culture bien précise, la culture grecque. La société grecque a été le premier pays, la première société, plus exactement, à formuler à l'échelle universelle cette intuition du sens de la destinée humaine telle que Israël le rejette, enfin telle que Israël va le rencontrer dans chacun de ses conflits avec les nations au niveau idéologique, bien entendu. Je veux dire que il se produit un cas particulier dans la mutation de civilisation au niveau de la société grecque, elle est elle-même spécifique, c'est une doctrine parmi les autres, la philosophie grecque, si vous voulez, mais d'emblée, elle est à l'indice à l'échelle universelle. C'est au titre de l'humanité tout entière que la pensée grecque a pensé le problème de la destinée humaine et du fondement des valeurs morales. Et il y a eu là un conflit entre notre intuition de ce problème et la manière dont les nations, par le biais de cette matrice de civilisation qu'a d'abord été la Grèce, l'avaient pensée pour son compte. Vous savez que, d'une façon générale, on trouve très peu d'allusions aux événements des Maccabées et de cette guerre des Maccabées contre les Grecs dans la tradition juive. C'est là un des sujets d'étonnement les plus classiques à propos de ce problème. Comment se fait-il qu'un événement qui a eu malgré tout une si grande importance pour nous ait laissé si peu de traces dans la littérature traditionnelle? Bien entendu, on ne pouvait pas s'attendre à trouver un livre des Maccabées dans la Bible juive, dans le canon biblique de la tradition juive, puisque ces événements se passent après la clôture du temps de la prophétie. Et selon la tradition juive, comme vous le savez, ne font partie des livres de la Bible que des livres inspirés par les prophètes. Or, les événements du temps des Maccabées se passent après la plénitude du canon biblique, selon la tradition. Mais on devait pourtant s'attendre à trouver dans la littérature talmudique, à tout le moins, un traité consacré à ce problème de Hanouka et de la lutte entre l'idéologie hébraïque à travers les Judéens et l'idéologie grecque. Or, on ne trouve pas un traité de ce genre. Ça veut dire qu'il y a une sorte de silence qui est jeté sur ces événements et sur tout ce problème, en tout cas dans la littérature mise par écrit. Une des réponses qui ont été données à cette question, et je cite là en particulier le Maharal, va très loin dans le fond des choses. Le Maharal décrit ce conflit entre l'humanité et Israël à travers la Grèce et Israël, ce conflit quant au sens de la destinée humaine, comme un conflit qui avait pour objet d'annuler l'identité d'Israël. Les Grecs de l'époque se sont rendus compte qu'ils n'avaient un seul moyen pour assurer leur victoire contre la doctrine juive, c'était de dénaturer les Juifs, de les déjudaïser. Et c'est la raison pour laquelle on assiste déjà à toute une systématisation de ce qu'on a fait par la suite antisémitique, déjà à la manière dont plus tard, non seulement l'Inquisition, mais plus tard les nazis organiseront ce système de la dénaturation de l'identité d'Israël. Toute une série d'édits qui avaient pour objet d'empêcher les juifs de pratiquer leur religion, non seulement leur religion, d'effectuer leur identité. Tout ce qui était caractéristique de l'identité d'Israël devenait interdit. Mais plus que cela, les Grecs se sont aperçus que la spécificité de l'identité d'Israël venait du lien entre un peuple particulier et ce que nous nommons la Torah, c'est-à-dire la manière dont la conscience hébraïque a compris le sens de la destinée humaine par la suite de la révélation que les prophètes lui donnent du point de vue de Dieu sur l'histoire humaine. Et c'est là que nous rencontrons déjà un des éléments les plus importants du conflit de mentalité, comme nous le verrons plus en détail encore tout à l'heure. Les Grecs ont donc compris qu'aucune mesure purement politique n'arriverait à annuler cette identité d'Israël. Ils ont entrepris une toute autre stratégie qui avait pour objet de dénaturer l'identité judéenne, c'est-à-dire de faire des Juifs d'autres êtres que ce qu'ils étaient, c'est-à-dire fidèles à l'identité hébraïque. Ils ont eu pour objectif de couper le lien qui relie Israël et la Torah. Et je crois que on peut dire que ce conflit qui a commencé en ce temps-là n'est pas encore clos. Et nous allons le voir immédiatement, simplement en définissant les deux dimensions de cette stratégie qu'ont employé les Grecs dans cette tentative de dénaturer l'identité d'Israël. D'une part, de couper le lien entre les Juifs et la Torah, de les empêcher d'étudier la Torah. D'autre part, de s'approprier la Torah en évacuant toute référence à Israël. C'est-à-dire de transformer la Torah, qui était connue par les Juifs comme le résultat d'une révélation, comme nous disons Torah Mina Shamayim, et identifiée comme telle et comprise comme telle, transformée en une sorte de sagesse purement immanente à la manière des sagesses des autres sociétés. Et il suffit de jeter un regard assez attentif à tout ce qu'a été l'histoire des rapports, des échanges idéologiques entre Israël et l'humanité par rapport à la Bible pour s'apercevoir à quel point les Grecs ont failli réussir. Et vous voyez, il y a ces deux éléments corollaires, complémentaires dans la stratégie des Grecs. D'une part, arracher de l'identité des Juifs ce que nous appelons la Torah, et d'autre part, arracher la Torah aux Juifs, c'est-à-dire en faire, entre guillemets, ce qu'on appelle la Bible, livre de sagesse à l'échelle universelle, qui n'aurait pas de lien particulier avec l'identité d'Israël. Il y a là un niveau théologique et anthropologique qui sont complémentaires. Et les Grecs ont failli réussir. Donc, ils auraient réussi si ce que nous appelons la Torah Shegalote, c'est-à-dire la tradition orale de la Torah n'avait pu être perpétuée en Israël. Et effectivement, l'essentiel de la spécificité qu'il y a dans le lien entre Israël et la Torah ne consiste pas seulement ou tellement dans la lecture du livre, lecture que n'importe quel homme qui ne serait pas Israël pourrait faire, mais dans une certaine manière de lire qui vient d'une équation personnelle d'identification de la pensée hébraïque avec la Torah. Je veux dire, en d'autres termes, lorsqu'un hébreu lit la Torah, alors il s'agit de la Torah. Lorsqu'un non-hébreu lit la Torah, il ne s'agit plus de la Torah, il s'agit de la Bible, c'est-à-dire un livre de sagesse, comme les Grecs l'ont pensé, à l'échelle universelle, produit du génie humain, à la manière dont chaque société avait son dignité, son odyssée, si j'ose dire. Je ne sais pas s'il était suffisamment clair pour décrire quelle était la stratégie des Grecs. Et ils ont pratiquement risqué de réussir. C'est ce que nous indiquons d'ailleurs dans une des formules liturgiques de commémoration des événements du temps de Hanouka, où nous trouvons l'expression faire oublier la Torah à Israël. Mais elle est formulée dans la langue hébraïque, dans l'expression qui est employée de façon très précise, faire oublier le lien qu'il y a entre Israël et la Torah. Selon une tradition très, très ancienne et très profonde, très connue d'ailleurs, chaque membre d'Israël a son verset dans la Torah, ou son, un mot qui est son équation personnelle, sa manière d'être dans la Torah, ou une lettre qui est son chidouche propre, c'est-à-dire la constellation d'équations personnelles qui le conserve dans l'ensemble de la Torah. Et au fond, l'objectif des Grecs était de faire disparaître cela. C'est-à-dire ce lien d'identification entre la Torah et la manière d'être homme qui se nomme Israël. Et vous voyez comment se profile déjà bien avant le temps toute l'aventure du christianisme, de la relation entre le christianisme et Israël. Et au fond, c'est dans le christianisme qu'on trouvera le modèle de ce que les Grecs avaient voulu faire. Je précise, d'une part, essayer de déjudaïser les Juifs, et d'autre part, essayer de déjudaïser la Torah elle-même. C'est-à-dire la transformer en une sagesse immanente à l'homme qui prendrait place dans les bibliothèques au milieu des autres sagesses. Et c'est là qu'apparaît effectivement ce drame de la rencontre entre la conscience universelle de l'humanité quant au problème de la destinée humaine et la conscience très spécifique à l'identité hébraïque. Eh bien, si finalement la tradition juive a décidé de ne rien mettre par écrit qui concerne ces événements, c'était pour indiquer que finalement, la tradition orale avait triomphé. Si l'on avait mis par écrit ce qui concernait Hanouka, alors ça aurait été le signe que les Grecs avaient vaincu, puisqu'ils avaient arraché l'identification orale, anthropologique de la Torah et le propre de la conscience d'Israël. Mettre sous forme de livre ce qui est une manière d'être, ce qui est une forme de vie, eh bien, c'était déjà l'indice. De l'échec devant les Grecs. Le livre n'est que la trace d'une identité. C'est cette identité qui est le lien entre Israël et la Torah, beaucoup plus que le livre. Parce que finalement, ce que signifie le livre dépend du lecteur, ou de la manière dont il utilise un dictionnaire. Mais Israël n'est pas tellement le peuple du livre, il est le peuple de celui qui a écrit le livre. Et d'une autre manière, si vous voulez, la loi orale, la Torah orale précède la Torah écrite, puisque la Torah écrite, c'est la mise par écrit de ce qui a été dit par la parole vivante. Ce que les Grecs ont cherché à faire, c'est d'arracher cette parole de la bouche et de l'identité des Judéens en la transformant en un livre qui serait traduit dans toutes les langues, ce qui est arrivé d'ailleurs, et qui prendrait place à l'échelle de la sagesse universelle. Nous savons, enfin, nous disons, de notre point de vue, que dans cette traduction, de la vie au niveau de sagesse immanente, eh bien, il y a eu une dénaturation. Il est évident qu'il y a une sorte de mystère de cette manière d'être homme qui correspond à la parole qui a été donnée dans ce livre. Je crois d'ailleurs que le premier point le plus important, sur lequel nous aurons certainement à revenir assez souvent au cours de cette semaine, c'est ceci, la différence que je vais maintenant analyser, la différence de mentalité quant à la sagesse qu'il y avait en Israël. Et chez les Grecs, ce qu'on pourrait appeler l'humanisme en général, et cette expression de Torah et Hashamayim, pour nous, le fondement, l'efficacité même de la sagesse vient de ce qu'elle nous a été transmise par une identité autre que l'identité humaine, qui vient révéler à l'homme le sens de sa destinée, alors que pour les Grecs, l'idée d'une révélation de l'extérieur de la conscience humaine était un pseudo-concept, et pour les Grecs, toute sagesse ne peut être qu'immanente. Pour employer une image qui est biblique, pour l'hébreu, la sagesse qui importe est la sagesse qui nous vient du ciel, qui nous vient de l'extérieur de la conscience humaine. C'est-à-dire qu'il faut prendre au sérieux cette catégorie de Torah mina shamayim. Alors que pour les Grecs, c'est un non-sens, c'est un non-sens. La sagesse vient de la terre, la sagesse vient de la terre vers le ciel, si vous voulez, alors que pour les Hébreux, la sagesse descend du ciel vers la terre. C'est ce conflit-là qui va finalement nous faire comprendre la différence de signification dans l'approche du problème de la destinée humaine en Israël et chez les nations. Mais encore une fois, je tenais à mettre en évidence ce fait que, historiquement, c'est dans la rencontre avec la conscience grecque que s'est opérée cette rencontre entre Israël et les nations dans la divergence quant au problème moral. Je voudrais très brièvement essayer d'éclairer ce premier point. La philosophie en Grèce est par conséquent cette attitude humaniste et immanentiste qui consiste à nous considérer le sagesse comme produit de l'esprit humain, de l'identité humaine, et donc finalement un produit inefficace qui se affirme. C'est moi l'homme qui pose ma question. Mais si c'est moi, l'homme, qui donne une réponse à ma question, alors la réponse n'a pas tellement de valeur, puisque c'est la question que je pose. Et j'attends une réponse. Si c'est moi qui donne la réponse, je ne fais que parler moi-même, de moi-même. Et par conséquent, ce projet de la sagesse, tout le coup, ou échoue. Le philosophe est par définition un être inquiet lorsqu'il est sincère, parce qu'il sait très bien que c'est lui-même qui répond à ses propres questions. Alors que pour l'hébreu, toute la sagesse de l'homme consiste à poser la question. Mais la réponse qui importe doit venir d'ailleurs. Et cela a été le génie spécifique de la conscience hébraïque, de pouvoir connaître et comprendre et savoir qui est cet ailleurs qui explique à l'homme le sens de sa destinée. Donc nous apercevons que la philosophie apparaît en Grèce, et par conséquent apparaît à l'échelle de l'histoire humaine tout entière, apparaît chez les nations en Grèce, mais à l'échelle des nations tout entières, au moment même où la prophétie en Israël. Or, nous avons une tradition talmudique qui explique que lorsque la prophétie était donnée à Israël, elle était en même temps donnée à toutes les nations. Je veux dire, c'est une manière de dire que la prophétie, la révélation est universelle. Le Dieu qui se révèle dans la révélation se révèle à tous les hommes. Et par conséquent, il y a donc eu un temps, selon la tradition talmudique, où n'importe quelle société était capable de recevoir et de percevoir cette révélation. Israël, centralement, dans une équation de justesse plus exacte quant à la relation entre le Créateur et la créature. Je veux dire qu'il y a eu dans la manière de capter cette révélation en Israël une authenticité plus grande. C'est l'hypothèse de travail ici, mais de notre lecture de la Bible. Il y a eu une révélation partout, mais elle a été captée authentiquement comme Israël. Il en résulte donc que lorsque la révélation a cessé, elle a cessé partout à la fois. Et c'est là que s'est produit en Grèce un phénomène bien particulier. Les Grecs n'ont plus compris leur propre révélation. Je veux dire, lisant ce que nous appelons aujourd'hui, ce que nous nommons aujourd'hui leur mythologie, lisant leur mythologie, les Grecs ne la comprenaient plus. Incapacité pour l'intelligence humaine devenue adulte d'identifier de quoi parler les mythes. On ne sait plus de quoi parler les mythes, alors conclusion tirée par la conscience grecque, et tout ça est déjà avant la lettre très civilisée, très humaniste du 18e siècle, si j'ose dire, mais nous parlons d'un monde de 2000 ans antérieur. Alors la conclusion que les Grecs ont tiré, les premiers philosophes grecs, était la suivante: les dieux n'ont jamais parlé, puisque ils ont dit des bêtises. Je veux dire que lorsqu'on lit les mythes, on s'aperçoit que les dieux disent des bêtises. Alors c'est qu'ils n'ont jamais parlé. Il n'y a jamais eu de Torah mina shamayim, il n'y a jamais eu de révélation de l'extérieur de la conscience humaine, puisque ces dieux dont on nous dit qu'ils parlaient dans les mythes, eh bien nous ne comprenons plus ce qu'ils disent, ou du moins ce que nous comprenons, c'est un niveau tellement enfantin, les dieux qui disent des bêtises, ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez à peu près comment la conscience grecque a réagi? Et c'est là qu'a été fondé le mouvement philosophique, c'est-à-dire le philosophe et l'homme qui parle dans le silence de Dieu, si j'ose dire. Eh bien, voilà quel a été l'élément historique le plus important. Ce n'est pas un hasard que cette rencontre entre Israël et l'humanité se fera par le biais du conflit entre la Judée et la Grèce, au niveau idéologique, puisque c'est en Grèce que la conscience de l'humanité coupée de la création s'est cristallisée pour la première fois. Ceci est un point extrêmement important. Il en résulte que lorsque nous parlons des nations dans ce problème, eh bien, nous parlons d'hommes qui n'ont eu aucune expérience de ce que représente la révélation. Le fait que la loi morale est formulée par quelqu'un. La loi morale concerne la personne humaine, mais cette loi morale est formulée par quelqu'un, c'est-à-dire elle a en fin de compte une équation d'ordre personnel. La loi n'est pas impersonnelle, la loi est la volonté de quelqu'un. Voici ce qu'a été le fondement même de la prise de conscience d'Israël quant à la loi morale. Alors que nous trouvons en Grèce une attitude radicalement différente, la loi morale, c'est un ensemble de principes impersonnels à la manière des lois de la nature. Et vous voyez comment ce principe découle du premier. Étant donné que la conscience grecque refuse comme un non-sens l'idée que quelqu'un ait parlé dans la parole de Dieu, par conséquent, elle refuse comme un non-sens que la loi morale, que les principes de la loi morale soient de l'ordre de la personne, elle ne peut rencontrer la loi morale qu'à l'échelle impersonnelle, de la même manière qu'elle rencontre la loi de la nature à l'échelle impersonnelle dans son exploration de l'univers. Tout se passe ici, nous sommes dans un monde où personne ne parle, mais il y a des phénomènes et l'intelligence humaine peut lire la structure de ces phénomènes, ce sont les lois de la nature. Et bien, selon les Grecs, il en est ainsi aussi au niveau de la loi morale, alors que selon les Hébreux, le niveau de la loi morale ressortit d'un tout autre univers, celui de la personne. Quelqu'un a parlé pour dire quel est le secret du fait d'être quelqu'un. Et c'est ce secret-là qui est révélé à l'homme, puisque toute l'histoire humaine a pour objectif une tentative de réussir cela, devenir vraiment le quelqu'un, devenir vraiment la personne. Alors ce conflit entre Israël et les nations, à travers le conflit Judée-Grèce, était dramatique. C'est un conflit grave. C'était le sort, finalement, de ce que nous appellerons en langage moderne le fondement des sciences humaines, mais c'était le sort de la conception de l'homme qui était en jeu. Les Judéens étaient les seuls à avoir gardé le souvenir que vraiment il y a eu révélation. Les Grecs sont les premiers philosophes qui, finalement, définissent cette attitude de la révélation comme un non-sens. Et c'était dans ce conflit-là que pour tout l'avenir de l'histoire humaine, l'enjeu se trouvait le sens même de la destinée humaine. Ou bien l'homme se trouve dans un dialogue avec quelqu'un qui l'a créé et que par conséquent il peut recevoir de lui le mode d'emploi du fait d'exister, ou bien l'homme se trouve devant un monde impersonnel et par conséquent, au niveau de la loi morale aussi, les principes de la vérité sont des principes d'ordre impersonnel. Mais il faut bien comprendre cela. La philosophie apparaît dans le monde au moment même où la prophétie cesse. Dans la société où est resté le souvenir de la signification de la prophétie, est restée aussi la connaissance de la sagesse révélée. Mais dans la société grecque qui a été incapable d'identifier ce souvenir, eh bien, a été fondée cette démarche de la pensée qui fait la culture occidentale répondre à la connaissance depuis son origine, que l'homme se trouve en relation toujours et constamment avec l'impersonnel. Bien, si nous reprenons le problème de la relation Israël-Nation à travers l'identité grecque, alors nous nous apercevons d'une sorte d'ambiguïté dans la manière dont la tradition parle de notre relation avec cette sagesse grecque. Par un certain côté, il semble que la tradition juive considère les maîtres de la sagesse grecque comme de très grands maîtres, comme de très grands hommes. Mais par d'autres, on se considère comme apparemment privé de toute culture. Il y a une véritable ambiguïté, ambivalence dans le jugement qui a été fondé par la tradition juive sur les rapports entre les Judéens et les Grecs. Je vais vous citer le terme du Midrash à ce sujet. D'un certain côté, on nous dit que la Grèce est représentée par l'expression Rocher Alpenetheon, qui se trouve dès le début de la Genèse. Au deuxième verset du premier chapitre de la Genèse, la Bible décrit l'état de chaos et d'obscurité qu'il y a dans le monde à l'instant du commencement. C'est cet état de chaos et d'obscurité qui sera organisé par le Créateur pendant les six premiers jours du commencement. Mais il y a d'abord un état de, d'obscurité qui s'est bien heureux des recherches à peiner des hommes. Et il y a des obscurités sur la face de la vie. Alors le Midrash dit, dans le déroulement postérieur de l'histoire des hommes, le stade de Roger a fait des hommes, le stade de obscurité sur la face de la Bible, ça c'est Yavam, c'est-à-dire la Grèce. Mais d'un autre côté, la tradition talmudique félicite la Grèce pour son génie propre. Et effectivement, nous voyons que lorsque Noé a prophétisé toutes les différentes lignées qui sont issues de lui, Shem, Cham et Yafet, les trois grandes lignées humaines issues de Noé, nous verrons qu'il félicite Japhet, et Japhet signifie en hébreu la beauté, Yofi, et il félicite Japhet pour sa beauté, et il prédit que finalement Japhet résidera dans les temples de Shem. Yaf, Elohim, et Yefé, Veishkon, Baoré, Shem. C'est-à-dire, Noé dit en voyant l'avenir de l'identité qu'il est en train de fabriquer à travers les différentes lignées issues de lui, alors pour la lignée japhétique, il dit, en s'adressant à Dieu, tu as fait une belle chose avec Japhet. Il y a, si vous voulez, entre guillemets, une utilisation de jeu de mots, puisque Japhet signifie en hébreu la beauté. Donc tu as très bien fait la beauté de cet homme de la beauté qui est Japhet, et il finira par résider dans les temples de Shem. Une sorte de collaboration dans la culture entre finalement Japhet et Shem, c'est-à-dire Yavam et Israël, c'est-à-dire la Grèce et Israël. En effet, le Talmud dit, qui est la beauté de Japhet, c'est Yavam. Et Yavam, c'est le mot hébreu pour dire la Grèce. Je pense que l'étymologie nous renvoie très exactement à l'ionie. Yavam, retrouvez le même sémantisme que l'ionie, qui est une des provinces de la Grèce, Yavam. Par conséquent, il y a, semble-t-il, voyez-vous, une ambiguïté. D'un côté, les Grecs sont considérés comme l'obscurité dans le monde humain. Pourquoi ? Et parce qu'ils ont projeté l'idée de l'impersonnel dans le domaine moral. La réussite, le triomphe de la culture grecque, c'est, selon la réaction de la tradition de conscience hébraïque, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde de l'homme. C'est la dénaturation de l'homme. C'est transformer l'homme en animal. En animal lucide, adulte, super et intelligent, mais en animal quand même. Parce que soumis dans l'ordre moral, soumis dans l'ordre de la culture humaine à l'être de nature, soumis à l'impersonnel. Il n'y a aucune espérance qui traverse la pensée grecque parce qu'elle est mesurée au silence de l'impersonnel. Donc, le triomphe de la culture des nations au niveau du problème moral, c'est l'obscurité sur la face de la vie. Mais pourtant, de notre côté, la lutte, comme je vous dis, en citant la prophétie de Noé lui-même, félicite ce peuple intelligent qui a donné la science au monde. Alors réfléchissons sur cette ambivalence, et c'est cela qui, je pense, nous donnera la clé de notre problème. Je vais utiliser ça, une analyse qui a été donnée par le Rav Houtner, qui est un des plus grands commentateurs du Maharal. Le Rav Houtner est le Rosh Yeshiva de la Métishta de Rabbi Chaim Berlin à New York. Et dans un des exposés sur Hanukkah, il a prononcé une dizaine d'années dans sa yeshiva et qui a été édité depuis, Rav Houtner nous propose précisément l'explication suivante de cette ambiguïté qu'il y a dans la relation Israël et nation. D'une part, félicite l'humanité pour le niveau de science dont elle est capable, mais d'autre part, on considère que aucun humanisme de ce type ne peut arriver à mener une solution au problème de la destinée humaine. Voyez-vous, c'est le point de la contestation d'Israël contre l'ensemble des nations, contre toute l'humanité. Et en particulier, le conflit a été avec la Grèce, parce que c'est la Grèce qui, la première fois, a formulé à l'échelle universelle cette prise de conscience de ce que mes excellents amis, M. Jean Sandy, appellent l'usurpation. L'usurpation de l'identité humaine par les humanistes. Eh bien, il nous propose le schéma suivant, le Rav Houtner. Il dit ceci. Il faut savoir que lorsque deux êtres sont très proches l'un de l'autre, les conflits de rivalité qui peuvent advenir sont les plus graves. Et si par conséquent, dans le bénéfice de ce principe, on s'aperçoit qu'effectivement, le conflit qu'il y a eu entre la Judée et la Grèce, c'était un conflit très grave. C'était donc qu'il y a une certaine proximité de destin entre la Grèce et Israël, entre la Grèce et la Judée. Et Rabotner explique, en se basant sur le Maharal, qu'il y a là un conflit de frères ennemis. Et il dit de la manière suivante. Il y a deux formes du dévoilement de la transcendance divine dans le monde. À travers les lois de la nature et à travers la révélation de la Torah. C'est-à-dire Dieu dévoile sa volonté dans le projet de la création du monde, Dieu dévoile son intention pour l'histoire du monde de deux manières. Soit à travers les lois de la nature, ce que le Maharal appelle Matanah et Chreach, c'est un don de connaissance, mais un don de connaissance qui nous est imposé. Je veux dire, les lois de la nature, lorsque nous percevons la signification de ces lois, ou simplement la connaissance de ces lois, nous apercevons dans une catégorie du déterminisme absolu. Les lois nous déterminent. À travers les lois de la nature, Dieu dévoile sa volonté pour le monde, mais de façon déterminante. Deuxième forme du dévoilement du Créateur, à travers la Torah. C'est-à-dire à travers Matan Bechira, c'est-à-dire à travers des lois qui transcendent la conscience humaine, mais laissent libre la terre dans la catégorie de l'obligation tout en le laissant en vie, et dans les exemples suivants. Nous avons d'abord la description de la création du monde dans le premier chapitre de la Genèse. Et ce sont les 10 paroles du commencement. La Mishnah explique que le monde a été créé par 10 paroles. Ce sont les 10 décrets que la Bible énumère chaque fois que Dieu veut faire exister le monde d'une certaine manière. Et Dieu dit, c'est dit, dire, c'est 10 fois, et Dieu dit, ce sont les Asara Mahamarot. Et Asara Mahamarot, les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, c'est-à-dire le plan du Créateur dans l'organisation du monde, s'impose à nous de façon déterminée. Que la lumière soit, eh bien, l'homme ne peut pas faire autrement que d'assister à ce fait que la lumière est. C'est-à-dire, les lois de la nature s'imposent à nous de façon déterminante. Mais il y a aussi, à serrer la vie, il y a aussi les 10 commandements. Les 10 commandements de la loi morale. Et devant les 10 commandements de la loi morale, la conscience humaine reste libre. Il y a donc deux stratégies différentes de la part du Créateur pour dévoiler le projet de la construction du monde. À un certain niveau, le dévoilement de la volonté du Créateur au niveau du déterminisme, c'est-à-dire des lois que les savants explorent, et d'autre part, au niveau de la moralité, ce que l'homme doit faire de son identité dans le monde des lois de la nature, ce que l'homme doit faire de son histoire, et là, c'est un tout autre dévoilement, dans la catégorie de la liberté. Alors le Maharal explique ça de la manière suivante. Les Grecs, il y a une spécialisation du travail qui se fait entre la Grèce et Israël. Les Grecs avaient à explorer le monde de la détermination, et c'est les Hébreux qui avaient à explorer le monde de la liberté, le monde de la personne et le monde de la moralité. Mais tout se passe comme si il y a une spécialisation du travail qui est offerte à ces deux nations géniales, si j'ose dire. Je dis géniales pour les Grecs, pas moi, c'est même pas si vous voulez. Les Grecs ont réussi dans leur travail. Effectivement, lorsqu'ils ont fondé la science, eh bien, ils ont fait la science. Et ils ont donné à l'humanité contemporaine les moyens techniques de maîtriser la nature et de commencer à devenir quelqu'un. Oui, voilà. Ils ont été, en quelque sorte, eus par leur propre réussite, si j'ose dire. Ils ont été vaincus par leur victoire. C'est-à-dire, leur mentalité, c'est une sorte de déformation professionnelle qui leur est arrivée, c'est-à-dire la mentalité de leur conscience s'est laissée impressionner par les cadres de l'exploration du monde impersonnel des lois de la nature, et ils sont devenus incapables de penser aux problèmes de la divinité humaine autrement qu'à travers ces catégories de l'impersonnel qu'ils avaient découvertes dans le monde des lois de la nature. C'est-à-dire que le spécialiste du problème de la science de l'inerte, de la science des objets, de la science des phénomènes, eh bien, ils ont voulu aussi traiter du problème de la philosophie et de la morale à la manière dont on traite du problème des sciences, et ils ont obscurci, ils ont mis l'obscurité dans le domaine de la loi morale. Et je crois qu'il y a là une explication fondamentale et qui nous rend compte effectivement de ce qui est arrivé. C'est-à-dire que l'équation personnelle des Grecs, qui était justifiable au niveau de l'exploration des lois de la nature, est absolument injustifiable lorsqu'elle est projetée au niveau de la moralité. Alors que pour Israël, le sort a été absolument inverse. Israël est spécialiste de l'exploration du monde de la personne, donc du monde de la loi morale, et lorsqu'il s'occupe des sciences, il réussit aussi. Mais, si vous voulez, le chemin inverse n'est pas vrai. Lorsque l'homme de mentalité purement scientifique s'occupe de la Torah, il obscurcit la Torah. Parce que, avec toute une sorte de stratégie de torsion de la conscience, hein, il est obligé de dénaturer le problème même dont il parle. La Torah, c'est Torah Nachamayim. C'est quelqu'un qui parle à quelqu'un des lois du quelqu'un. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Hein. Et nous sommes là dans un monde autre que celui des principes de l'explication scientifique, où l'homme, qui est quelqu'un, déchiffre la chose qui est le phénomène, l'impersonnel du phénomène. Et par conséquent, voilà ce qui est arrivé. C'est-à-dire, il y a une collaboration possible entre l'identité d'Israël et l'identité de Yahweh à la fin des temps. Lorsque Japheth sera vraiment devenu beau, il pourra séjourner dans les temples de Shem, si j'ose dire. Mais à condition que chacun s'en tienne à sa spécialité, si j'ose dire. La raison pour laquelle l'humanité n'arrive pas à donner une solution au problème moral, c'est qu'elle pose le problème moral à la manière grecque, c'est-à-dire à la manière du problème des sciences de la nature. Alors elle ne peut atteindre qu'une légalité et jamais une moralité. C'est à l'inverse. En Israël, il y a la connaissance de ce qu'est la personne, parce qu'il y a la Torah de la personne, Anori, Hashemel Okecha. Je veux dire, le mot clé de la révélation de la Torah, c'est comment faut-il faire pour devenir un Anori? Comment faut-il faire pour devenir un jeu, un sujet, un quelqu'un? Mais ça, nous ne pouvons l'entendre que de la révélation du quelqu'un. Dieu est connu en tant que Anori, et se fait connaître en tant que tel. Et voir dans la Torah, à la manière des lois de la nature, des structures impersonnelles qui renvoient à une sagesse impersonnelle, cela, ce serait le triomphe de la Grèce en Israël. Voilà, si vous voulez, autour de quel point a tourné ce conflit et cette contestation d'Israël contre les nations. Dans l'humanité, la morale est sacrifiée, parce que par définition, on ne peut pas atteindre la moralité, on atteint une légalité impersonnelle. Et c'est contre ça, c'est face à cette position, que l'identité d'Israël s'est constituée dès l'origine, en posant comme principe qu'il y a une distinction de nature entre l'exploration des connaissances à la manière de la science, et ceci a été le travail des Grecs, comme vous savez, nous l'avons donné un coup de main, mais que au niveau du problème moral, c'est la moralité elle-même qui doit être instaurée en légalité. Et à qui demander comment doit être la morale? Eh bien, non pas à la raison qui fait la science, mais à l'âme juive qui a entendu la révélation de ce qu'est la manière d'être quelqu'un. Et au fond, si l'humanité n'arrive pas à réussir dans ses tentatives de résoudre le problème moral, c'est parce que, comme je vous dis souvent, elle sent plus ou moins intuitivement que la loi morale lui soit demandée à Israël comment se conduire pour être un homme. Finalement, c'est ça le fond des choses. Mais demander à Israël, l'antisémitisme empêche. Lorsque l'antisémitisme sera complètement évacué, alors les autres, finalement, redeviendront sincères avec eux-mêmes et harmoniseront leur conduite avec leur croyance. Ils savent que s'il y a une révélation de la moralité, c'est en Israël qu'elle a eu lieu, et par conséquent, pour pouvoir en disposer, c'est donc à Israël qu'il faut la demander. Voilà donc l'essentiel de cette analyse que je voulais vous proposer ce soir. Il y a une contestation d'Israël contre les nations par rapport au problème d'égalité et moralité. Par définition, les nations distinguent la moralité et la légalité. La moralité est renvoyée à une justice théorique qui n'est pas de ce monde. On se voit à une légalité à la manière de la légalité scientifique. Alors qu'en Israël, la position est l'inverse. La destinée humaine ne peut réussir, l'histoire humaine ne peut réussir que si la moralité est prise comme l'égalité. Comment se fait-il qu'Israël a cette position? Qu'est-ce qui permet de poser le problème de cette manière? C'est le fait que c'est en Israël qu'a eu lieu la révélation, la communication par le quelqu'un de la manière de se conduire pour réussir le fait d'être quelqu'un. Voilà donc le premier point que nous allons analyser. Et puis, nous verrons les différentes dimensions de ce problème à travers toute cette semaine d'études. Avant d'aborder une seconde analyse, je voudrais quand même vous donner la parole si vous avez des questions à poser sur ce sujet. Une citation que je fais tout à l'heure assez rapidement, c'est le fait qu'il y a une correspondance anti-identité, si vous dire, entre Israël comme être collectif et la Torah. C'est-à-dire, finalement, la Torah, c'est la trace, c'est la mise par écrit de cette sagesse qui, dans l'identité d'Israël, est un phénomène de conscience. Parce qu'en fait, il y a une correspondance entre ce que la Torah explique et la manière dont Israël existe. Et donc, cette correspondance va jusque dans les détails. L'expression à laquelle je viens la suivante,